Bonjour à chacun. Un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour continuer cette série sur Néhémie et sur le réveil qu'il y a eu au temps de Néhémie. Ça fait 4 mois maintenant que Néhémie est brisé par la nouvelle qu'il a reçue d'Anani. Anani, c'était ce frère qui revenait de Jérusalem et qui a rapporté à Néhémie combien Jérusalem était détruite, combien les portes étaient consumées par le feu. Jérusalem, la ville que Dieu avait choisie pour y faire résider son nom, cette ville-là est en ruine. 4 mois que Néhémie jeûne et prie. Et sûrement que pendant ces 4 mois, Néhémie repense à toutes les histoires qu'il a entendues et à la manière dont on lui a raconté encore et encore la beauté de cette ville. Cette ville qui représentait de manière symbolique la présence de Dieu au milieu de son peuple. Cette ville aussi qui représentait ce peuple choisi par Dieu au milieu de tous les autres peuples, alors que toute la terre lui appartient. 4 mois que Néhémie prie, « Seigneur, fais-moi trouver grâce aux yeux de ce roi. » Certains pensent qu'il y a 2 catégories de chrétiens. Il y a ceux qui prient, il y a ceux qui agissent. Mais Néhémie, ce matin, est le témoignage que nous n'avons pas à choisir entre les deux. Nous n'avons pas à choisir entre l'action et la prière. Et la semaine dernière, Jean-Jacques nous a présenté Néhémie comme étant un homme qui prie. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Néhémie comme un homme qui agit. Et voir ensemble que la prière pousse à l'action et que l'action pousse à la prière. Et que parce que Dieu est souverain, nous pouvons agir. Parce que Dieu est souverain, nous pouvons agir. Je vois certains lever les yeux, il y a déjà le plan. On verra ça au travers de 4 points ensemble. Mais avant, j'aimerais que nous lisions le texte. Néhémie, chapitre 2. C'est quelle page, Jean-Jacques, dans les Bibles blanches ?
333.
La page 333 dans les petites livres blanches, Bibles blanches. Merci. Néhémie, chapitre 2. Au bois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste devant lui. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu le visage triste ? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'une tristesse de cœur. » J'eus très peur et je répondis au roi, « Que le roi vive toujours. Pourquoi n'aurais-je pas le visage triste alors que la ville où sont les tombeaux de mes pères est détruite et que ses portes ont été dévorées par le feu ?» Le roi me dit, « Au fait, que demandes-tu donc ?» Je priai le Dieu du ciel et je répondis au roi, « Si cela te semble bon, et si moi, ton serviteur, j'ai ta faveur, envoie-moi en Juda, dans la ville des tombeaux de mes pères, pour que je la rebâtisse. » Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, « Combien de temps ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour ?» Il put au roi de me laisser partir et je lui indiquai une durée. Puis je dis au roi, « Si cela te semble bon, ô roi, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de Trans-Euphratène. » Ça c'est ma version, sûrement vous avez quelque chose de plus facile à comprendre. Au-delà de l'Euphrate. Afin qu'il me laisse passer jusqu'à mon arrivée en Juda, et une lettre pour Asaph, gardien du parc royal, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison où je me rendrai. Le roi me l'accorda, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs Trans-Euphratène et je leur remis les lettres du roi. Le roi m'avait fait accompagner par des officiers et par des chars. Sambala, le horonite, Tobia, l'administrateur ammonite, l'ayant appris, prirent très mal le fait qu'un homme soit venu pour le bien des Israélites. J'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours. Puis, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir indiqué à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait pas avec moi d'autres bêtes de somme que celles que je montais. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, dans la direction de la source du dragon et vers la porte du fumier, en inspectant les murailles de Jérusalem où il y avait des brèches et ses portes qui avaient été dévorées par le feu. Je passais près de la porte de la source et près du réservoir du roi, et il n'y avait pas de place où la bête que je montais puisse passer. Je montais de nuit par l'oued et j'inspectais la muraille. Puis je rentrais par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ne savaient pas où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien raconté aux judéens, ni aux prêtres, ni aux notables, ni aux magistrats, ni à tous ceux qui exerçaient quelque autre fonction. Je leur dis alors, vous voyez le malheur où nous sommes. Jérusalem est un champ de ruines. Ses portes ont été détruites par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu était sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, bâtissons ! Et ils prirent courage pour cette œuvre bonne. S'emballa le Horonite, Tobia, l'administrateur ammonite, et Geshem, l'arabe, l'ayant appris, se moquèrent de nous et nous traitèrent avec mépris. Ils dirent, que faites-vous là ? Vous rebellez-vous contre le roi ? Je leur fis cette réponse. Le Dieu du ciel nous fera réussir. Nous, ses serviteurs, nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni évocation dans Jérusalem. Après la prière, l'action. D'abord, on voit un homme qui agit en faisant confiance à Dieu. Ce sont les 6 premiers versets. Néhémie en face du roi, est-ce que c'est la première fois qu'il le revoit depuis la fin du chapitre précédent? Ou est-ce que c'est la première fois que le roi remarque son visage? En tout cas, c'est la première fois, nous dit le texte, qu'il a l'air abattu. La première fois que le roi remarque sa tristesse au point de lui demander, et j'ai fait une traduction un peu dynamique, « Pourquoi t'as une sale tête ?» De demander pourquoi Néhémie a un visage triste, c'est de demander avec cette force-là ce qui se passe. Peut-être que la tristesse de Néhémie, peut-être que aussi l'effet physique des longs mois de jeûne y sont pour quelque chose. Et là, Néhémie a très peur. Regardez la fin du verset de Jude, très peur. Il est devant l'homme le plus puissant de l'époque. Celui qui, au moindre mot de travers, pouvait condamner Néhémie à mort. Non seulement il est devant cet homme qui a tant de puissance, mais Néhémie se souvient aussi sûrement que quelques années auparavant, le roi devant qui il est Artaxerxès est le même qui avait déjà fait interrompre les travaux de reconstruction. Et aujourd'hui, il demande à ce roi-là de revenir sur sa décision. Et ça fait des mois que Néhémie prie, des mois qu'il prie pour ce moment où il pouvait être utilisé par Dieu. Et à la fin du chapitre précédent, on avait lu « Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui obtenir la faveur de cet homme. » Et c'est aujourd'hui qu'il est devant le roi. C'est aujourd'hui que Dieu répond à sa prière. Et il est rempli de peur. Mais il est aussi rempli de confiance dans le Dieu du ciel. Et alors, Néhémie expose au roi les raisons de son état. La ville de ses pères est détruite. On voit la manière aussi dont Néhémie use de retenue envers le roi. Il ne nomme pas la ville, peut-être. Il a peur que cela évoque trop fort ce que le roi avait déjà décrété quelques années auparavant. Toujours est-il que le roi est attentif à ce que dit Néhémie, attentif à sa demande. Et il demande, mais au fond, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Et regardez la fin du verset 4. entre la demande du roi et la réponse de Néhémie, il y a cette prière éclair. Une prière éclair. Je priais le Dieu du ciel et je répondis au roi. Il sait qu'aujourd'hui est le moment que Dieu a prévu, le moment où Dieu répond à sa prière, et il sait qu'il a besoin de Dieu. Mais on sait que sa prière ne sort pas de nulle part. On sait qu'elle n'est pas juste dictée par la peur, comme quelqu'un qui, face au désespoir, ferait appel à Dieu parce qu'il n'a aucune autre issue. Non. Cette prière est claire, elle vient du fond du cœur de quelqu'un qui a déjà passé des mois dans la prière, dans le jeûne, dans l'intercession, et qui demandait à Dieu, jour et nuit, de lui être favorable. Cette prière est claire, elle vient s'inscrire sur le fond des prières de Néhémie, un homme saturé de prières. Ça fait des mois qu'il prie. Et qu'est-ce qu'il demande au roi ? Envoie-moi rebâtir la ville de mes pères. En fait, Néhémie est en train de demander au roi de lui accorder ce qu'il a demandé à Dieu. Ce qu'il demande au roi, c'est ce qu'il avait demandé à Dieu au chapitre précédent. Et peut-être qu'il y a ce proverbe dans le cœur de Néhémie qui nous dit « Le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'oriente comme il le désire. » Néhémie sait très bien, quand il est devant le roi, que ce roi-là, si puissant soit-il, le roi le plus puissant de l'époque, l'homme le plus puissant de la planète, une espèce de Donald Trump, mais qui fait peur. Néhémie sait que ce roi n'est qu'un instrument dans les mains de Dieu. Et il sait que, ultimement, la réponse qui viendra de la bouche du roi, c'est la réponse qui vient de Dieu. Et si on lit ensemble les livres d'Esdras et Néhémie, on a vu la semaine dernière comment ils allaient ensemble, comment ils racontent une seule et grande histoire. On voit la manière dont, dans les récits avec Zorobabel, avec Esdras, avec Néhémie, ces récits-là sont pleins d'exemples où la providence de Dieu, son action dans le monde, se voit à l'œil nu. En fait, quand on lit ces récits, on est spectateur de l'action de Dieu. Dieu accomplit ce qu'il veut par les moyens qu'il a choisis. Par exemple, je vous lis deux exemples dans le livre d'Esdras. Au tout début, le premier verset d'Esdras. « La première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. » Il réveille l'esprit d'un Dieu païen pour que la parole d'un de ses prophètes s'accomplisse. Quelques chapitres plus loin, chapitre 7. « Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres, qui a mis dans le cœur du roi un tel intérêt pour la gloire de la maison de l'Éternel à Jérusalem. » Le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel qui l'oriente comme il le désire. Je me rappelle, il y a quelques mois, une belle leçon de foi, dans le groupe de la JAP Senior, peut-être certains se souviennent de cette histoire. L'un des frères de la JAP Senior était devant un dilemme. Son employeur lui demandait de faire quelque chose qui était interdit par la loi. Et il demandait la prière. Il demandait la prière pour avoir le courage d'être intègre, pour avoir le courage de refuser quelles que soient les conséquences. Et il y a une sœur qui est là ce matin, qui a répondu avec beaucoup de foi. Et pourquoi on ne prierait pas que ton employeur change de stratégie, change d'avis, change d'idée? Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce que Dieu a répondu. L'employeur a décidé de ne plus demander ce qu'il demandait à ce frère. Le roi, nos employeurs et nous-mêmes, nous sommes comme des courants d'eau dans la main de l'Éternel. Le roi accorde à Néhémie ce qu'il demande. Pourquoi ? Parce que la bonne main de Dieu était sur Néhémie. On le lit à la fin du verset 8. Le roi me l'accorda car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Ce Dieu-là, ce n'est pas juste le Dieu du ciel. Ce n'est pas juste le roi des nations. Ce n'est pas juste le roi de l'univers. Ce n'est pas juste le roi des rois. C'est mon Dieu. C'est mon Dieu qui a sa bonne main sur moi et qui prend soin de moi. Les hommes font volontairement ce que Dieu a décrété souverainement. Vous m'entendez souvent dire cette phrase sûrement. J'espère, c'est-à-dire que vous êtes attentifs. Mais pourquoi ? Parce que la Bible, elle nous dit encore et encore et encore et encore la même chose. Que ce que font les hommes volontairement, c'est ce que Dieu a décrété souverainement. Et il n'y a pas de dilemme. Il n'y a pas d'exclusion entre les deux. Et on voit la manière dans ce récit dont Dieu incline non seulement la volonté du roi, mais dans sa providence, il se sert de l'obéissance de Néhémie. Et ça, c'est intéressant parce que nous-mêmes, on a parfois du mal à articuler le fait que Dieu soit souverain et qu'il peut tout et que nous devions lui obéir. Et comment ça marche les deux ensemble? Si Dieu peut tout, est-ce qu'il y a vraiment besoin que j'obéisse? Si Dieu peut tout, s'il y a vraiment besoin que je passe l'aspirateur? Si je prie, peut-être? En fait, dit comme ça, c'est un peu caricatural, je vous l'avoue. Mais quelque part, on pense un peu comme ça dans les grandes choses également. Au final, ça sert à quoi que je fasse quelque chose si Dieu est souverain sur tout? Mais Néhémie nous rappelle que Dieu, dans sa providence, se sert de notre obéissance. Et que bien souvent, pour nous donner ce qu'il nous promet, Dieu nous demande de lui obéir. C'est ce que Jean-Jacques soulignait la dernière fois. Nous sommes souvent la réponse à nos prières. Et parfois on demande, Seigneur, fais du bien et encourage cette personne. Va l'encourager. Seigneur, aide-moi à aller encourager cette personne. Notre obéissance est un moyen que Dieu emploie. Dans le Notre Père, qu'on aura vraiment le privilège ensemble cette année d'étudier, on prie, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais comment Dieu nous donne notre pain quotidien? Le plus souvent, c'est par notre travail. Dieu emploie notre obéissance pour nous donner ce qu'il nous promet. On se souvient de ce passage célèbre dans la lettre aux Philippiens que Jean-Jacques a cité tout à l'heure, cette lettre. Un autre passage où Paul encourage les Philippiens et leur dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action. » Et il donne une raison juste derrière, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Est-ce qu'on doit obéir ou est-ce qu'on doit faire confiance à Dieu? La bonne réponse est oui. En fait, nous dit Paul, c'est parce que c'est Dieu qui produit en nous l'obéissance que nous devons obéir. Et c'est parce que c'est Dieu qui produit en nous l'obéissance que nous pouvons obéir. Certaines choses nous font peur. Est-ce que la confiance de Néhémie, si grande était-elle, l'a empêché d'avoir peur? Non? Et c'est sûrement un euphémisme quand il dit « j'eus très peur ». Il était peut-être vert de trouille. Il tremblait peut-être. Peut-être que s'il vivait à notre époque, il disait « je me suis liquéfié ». Certaines choses nous dépassent. Mais Dieu accompagne et équipe ce qu'il envoie. Dieu accompagne et équipe ce qu'il emploie. Néhémie avait demandé à Dieu de l'employer, alors il se met en action. Deuxième point, on va voir les versets 7 à 10, un homme qui agit en planifiant. Certains peuvent se demander, si Dieu est souverain, pourquoi agir? À quoi bon agir? D'autres se demandent, si Dieu est souverain, à quoi bon réfléchir? Dieu me donnera les réponses en temps voulu. Je n'ai qu'à me laisser conduire et inspirer, Dieu me donnera tout en temps voulu. Pourquoi préparer une prédication? Pourquoi creuser le texte? Dieu va m'inspirer et me donner ce qu'il me faudra en temps voulu. Et Néhémie sait encore une fois qu'on ne peut pas choisir. Et il sait qu'il doit se présenter devant ce roi, devant l'homme le plus puissant de la terre, avec peut-être la petite chance que ce roi lui demande « Mais qu'est-ce que tu veux ?» Et là, il ne peut pas lui dire « Bah, j'ai pas réfléchi, je reviens vers toi vers 48 heures, on fait ça ?» Non, pendant des mois, il a prié, il a jeûné, il a réfléchi, il a planifié, et il sait combien de temps il doit partir. Regardez avec moi les versets 7 et 8. C'est étonnant la manière dont Néhémie sait exactement ce qu'il veut. Il demande des laissez-passer, des sauf-conduits pour être sûr d'arriver à bon port. Il demande au roi du bois pour les portes de la muraille. Il est même en mesure de dire au roi combien de temps il faudra le laisser partir. Néhémie a réfléchi, Néhémie a planifié. Et là encore, il sait qu'il parle. Parce qu'il a prié, il a jeûné, il a demandé au Dieu du ciel qui est propriétaire de toutes choses. Et il sait que c'est Dieu lui-même qui accorde ce que Dieu lui accordera. Que Dieu n'est qu'un moyen dans la main de l'Éternel. Et pendant tous ces mois, il a réfléchi à ses moyens. Je me rappelle une conversation que j'avais avec une sœur, on parlait d'une situation qui nous préoccupait, c'est du souci pour quelqu'un. Puis elle m'a dit cette parole pour me rassurer, pour m'encourager. Elle dit, tu sais, Dieu lui a donné l'intelligence et son esprit. Dieu nous a donné son intelligence, notre intelligence et son esprit. Et parfois, on oublie l'un ou l'autre. Parfois, on s'appuie sur notre intelligence, on oublie qu'on a l'esprit. Parfois, on s'appuie sur l'esprit en oubliant que Dieu nous a donné notre intelligence. Mais Néhémie, encore une fois, n'a pas choisi. Il savait que la prière n'enlève pas la réflexion, que la confiance totale en Dieu n'enlève pas le besoin de planifier. Et même, j'irai plus loin, ce chapitre de Néhémie nous montre que la confiance totale en Dieu implique que l'on planifie. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est appliquer ce que Dieu veut avec les ressources de Dieu aux situations qu'il nous donne. Il a planifié, mais aussi il a une stratégie. On avance dans le texte. On arrive au verset 11. Néhémie est prudent. Il a prié pendant des mois. Il a jeûné, il a supplié Dieu de l'utiliser. Il a eu le courage de se présenter devant le roi, il a eu le courage de demander ce à quoi il avait réfléchi, et par la grâce de Dieu, c'est un vrai miracle auquel on assiste ici. Par la grâce de Dieu, il a les laissez-passer qu'il demande, le temps qu'il demande, le bois qu'il demande, et même il a droit à une escorte royale. Il a tous les chars avec les gyrophares, et lui il est dans le char blindé. Il arrive en grande pompe à Jérusalem. Impossible de louper ça. Impossible de louper ce cortège. Et d'ailleurs, on voit que ça provoque l'animosité de certaines personnes. Ça, on en reparlera tout à l'heure. Imaginez un peu l'état de Néhémie. Ça fait des mois qu'il prie. Des mois, sûrement, qu'il pleure. Des mois qu'il a peur. Des mois qu'il rêve aussi. Qu'il nourrit cet espoir de retourner à Jérusalem. Et vous savez ce qu'il fait quand il arrive à Jérusalem? Il se repose. Le texte ne le dit pas comme ça, mais je pense qu'il le suggère très fortement. Je vous donne deux raisons rapides. La première, c'est que la manière dont est écrit le texte, on voit qu'il y a beaucoup d'actions, que Néhémie voit le roi, le récit s'enchaîne et ensuite il part. Il part avec l'escorte, il fait un long voyage. Et juste après, au verset 12, il se lève la nuit, il prend une bête de somme, il fait le tour de la muraille. Tout le récit nous parle de l'action, de l'action, de l'action, de Néhémie qui fait des choses. Et on a ce verset 11 au milieu. J'arrivais à Jérusalem, et j'y passais 3 jours. Puis, ça veut dire que pendant ces 3 jours, il s'est passé quelque chose. Il y a un verset similaire dans le livre d'Esdras, au chapitre 8. Le livre nous raconte aussi la manière dont le roi est favorable à la demande d'Esdras de l'envoyer à Jérusalem. Le roi envoie Esdras à Jérusalem. Et au verset 32 du chapitre 8, on lit « Arrivé à Jérusalem, nous y sommes reposés 3 jours. » Comme Esdras, Néhémie se repose. Je ne sais pas si vous avez vu avec ce qu'on a lu, mais on a vu, Néhémie, ce n'est pas un mou. Ce n'est pas un gars qu'on doit traîner. Néhémie, il est en train de se dessiner comme un vrai leader, comme celui qui va porter le réveil, celui qui va porter la construction des murailles. On imagine aussi l'excitation qu'il a d'arriver à Jérusalem, de faire enfin ce pourquoi il rêve, ce pourquoi il a prié encore et encore, ce pourquoi il a jeûné, ce pourquoi il a supplié Dieu. Peut-être que la muraille accapare ses pensées. Il mange muraille, il pense muraille, il dort muraille, peut-être qu'il s'est fait un t-shirt muraille. Il a réfléchi, il a planifié, il a anticipé. Il arrive accompagné des gardes du roi, grosse escorte, gyrophare, klaxon de mule. Il aurait pu se mettre direct au travail. Il y avait trop de choses à faire. Mais non, il prend 3 jours pour se reposer. Je me souviendrai toujours de cette phrase d'un de mes profs. J'étais au lycée, en terminale. Elle m'avait, je pense, profondément marqué, parce que j'étais dans une période où j'allais très mal, physiquement, moralement. J'étais au bout du rouleau. Et je lui disais combien j'en pouvais plus. Il y avait trop de choses à faire. Les dossiers étaient à rendre trop vite. On avait trop peu de délais. Et il m'a dit cette phrase encourageante : tu te reposeras quand tu seras mort. Il a failli se reposer plus tôt que moi. Et je comprends qu'il y ait des moments de rush. On a tous des moments de rush. On a tous des moments où c'est plus compliqué. On a tous des moments où on doit pousser un peu plus que d'habitude. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde où ces moments-là ne sont pas devenus l'exception, mais la norme. Et qu'on vit comme si on se reposera au ciel. On se reposera quand on sera mort. On a trop de choses à faire aujourd'hui. J'ai pas le temps de me reposer. Mais Néhémie est sage. Et je pense pas qu'on puisse dire « Néhémie, c'est bien beau, toi, tu n'as pas grand-chose à faire. Nous, on a des emails à répondre. On doit faire à manger. On va aller chercher les gamins à l'école. Il y a le boulot. Toi, tu servais du vin. Tranquille. » Mais Néhémie doit rebâtir la muraille d'une ville. Et pas n'importe quelle ville, la ville sainte. Quelle plus grande œuvre pouvait-il y avoir pour Néhémie à ce moment-là? C'était la chose la plus importante qu'il avait à faire. Il avait trop de choses à faire pour se reposer, mais non, il est sage et il se repose. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand on est fatigué, on ne prend pas de décision importante. Il sait que quand on est fatigué, on ne commence pas des nouveaux projets. Il sait que la fatigue, c'est comme un brouillard qui nous empêche d'y voir clair. Il sait qu'avec la fatigue, une motte de terre peut devenir une montagne. Ce qui paraît difficile est devenu impossible. Néhémie imagine sûrement la tâche qui l'attend. Je pense qu'une des raisons pour laquelle il a su demander au roi des choses si précises, c'est parce qu'Anani, son frère revenu de Jérusalem, lui avait donné un rapport assez précis pour qu'il puisse planifier ses besoins. Et il sait que le travail sera important. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se repose. Pourquoi? Parce qu'il veut respecter la manière dont Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour que nous puissions ne pas nous passer de repos. On a besoin de repos. Parce que nous sommes des créatures et non le créateur. Ne pas se reposer, c'est le début de l'idolâtrie. Ne pas se reposer, c'est commencer à croire qu'on peut être comme Dieu, qu'on peut tout faire, qu'on peut dépendre de rien, même pas du repos. Mais se reposer, c'est aussi refléter le rythme de la création. Se reposer, c'est faire confiance à Dieu. Se reposer, c'est dire, je sais que le monde peut tourner sans moi. En vrai, on le sait, mais des fois, on fait comme si ce n'était pas le cas. Non, mais t'imagines pas. Si je m'arrête de faire ça, ça ne tourne plus. Je cite une phrase de Don Carson qui a dit « Parfois, la chose la plus sainte que vous pouvez faire dans tout l'univers, c'est d'avoir une bonne nuit de sommeil. » C'est pas une excuse pour faire que dormir et dire « Je suis occupé à des choses saintes, tu comprendras plus tard. » Mais ce que dit Néhémie ici, il nous dit « Au fond, notre repos témoigne de ce que nous pensons de Dieu. » Si Dieu lui a montré jusque-là qu'il était celui qui dirigeait les événements, qu'il était celui qui inclinait le cœur de roi, qu'il était celui qui donnait tout, alors il sait qu'il va pourvoir et qu'il peut s'arrêter et qu'il peut se reposer, qu'il peut se reposer dans la main de Dieu. Parce que Dieu lui donnera les forces pour continuer après. Alors non seulement il se repose, mais on lit au verset 12 qu'il n'avait rien dit à personne encore à propos de son projet. Il est arrivé en escorte. Maintenant, vous voyez la scène. Quand je dis ça, vous voyez des mules avec des gyrophares et tout. Moi, je les vois. Il est arrivé là, mais les gens ne savaient pas ce qu'il faisait là encore. En fait, il venait de Suse. Il n'a jamais habité à Jérusalem. Il ne connaît pas la ville, ne connaît pas les responsables. Il arrive avec l'autorité du roi perse. Il est comme un étranger. Alors il prend le temps. Non seulement il se repose, mais aussi il temporise. Il n'arrive pas avec un business plan tout ficelé, avec des dossiers, avec des listes de tâches. Il n'a pas imprimé des listes de tâches pour les gens. Tiens, toi tu dois faire ça, toi tu dois faire ça, j'ai réfléchi, tu fais ça. Il sait que c'est un petit nouveau. Il ne peut pas débarquer et dire à tout le monde ce qu'il doit faire. D'ailleurs, ce que lui a dit Anani, ça lui a permis d'avoir une certaine idée des dégâts. Mais il doit le voir par lui-même. Il n'est pas pressé, il veut faire les choses bien. Et il y a une autre difficulté. Il arrive dans une ville qui est détruite. Et sûrement dans cette ville, en fait, les gens se sont maintenant habitués à l'état de la ville. Et Néhémie doit surmonter ce qui était devenu normal. Et c'est toujours plus difficile de changer ce qui nous paraît normal. Il sait qu'il doit être prudent. Parce que c'est toujours difficile de dire aux gens. C'est toujours difficile pour nous d'accepter que ce qui est normal, en fait, ne l'est pas. C'est une anomalie, ça ne devrait pas être comme ça, ça devrait changer. Et Néhémie est dans une ville où tout le monde peut-être trouve ça normal. Et c'est pareil dans nos vies. Certaines choses ne sont pas normales. Certaines choses devraient changer. Mais on s'est habitué. On fait avec. On a même oublié parfois comment c'était avant. On a même oublié comment ça devrait être. C'est comme l'état du monde. Au fond, on sait qu'il y a quelque chose qui cloche. Tout le monde le sait. Quelque chose qui n'est pas normal. On sait que quelque chose a été perdu, qu'une relation a été brisée. On sait qu'on aspire au fond de notre cœur à quelque chose de plus. On sait qu'on aspire à être heureux, à vivre dans la justice, à être aimé et à aimer parfaitement et complètement. Mais on vit comme si c'était normal. Ce que Dieu veut, ce n'est pas des ruines. Ce que Dieu veut, c'est une ville qui reflète son honneur. Ce que Dieu veut, c'est une vie qui reflète son nom. Mais comme la réforme au temps de Néhémie, la réforme dans nos cœurs prend du temps. Et parfois, et souvent, et presque tout le temps, il faut quelqu'un de l'extérieur qui voit les dégâts. Quelqu'un qui voit les brèches, quelqu'un qui mesure aussi la gravité de la situation, et quelqu'un avec assez de cœur et assez d'amour pour nous dire « Écoute, c'est pas normal, mais moi je veux t'aider à reconstruire, moi je veux t'aider à réparer, moi je veux t'aider à réformer ton cœur. » Et c'est ce qu'on veut vivre dans l'Église, on ne veut pas laisser s'installer dans l'Église une situation qui n'est pas normale. C'est ce qu'on veut vivre aussi dans l'Église, dans chacun de nous. On ne veut pas, dans nos vies, laisser s'installer une situation qui n'est pas normale. Et ensemble, on veut faire attention les uns aux autres pour que nos vies reflètent la gloire du nom du Dieu du ciel. Néhémie sort la nuit. Logique, il avait encore dit à personne. Il fait le tour des murailles, il inspecte les brèches, il inspecte les dégâts, il prend sûrement des notes sur tout ce qu'il y a à faire, il est sûrement en train de planifier avec encore plus de détails, et on imagine facilement ses sentiments mitigés. Sûrement de la tristesse pour cette ville qui portait le nom de Dieu, cette ville qui est maintenant en lambeaux. Elle est tellement détruite qu'il nous dit que parfois, même sa monture n'arrive pas à passer, il doit descendre et doit faire le tour. Peut-être qu'il était en colère contre ce qui s'était passé. Peut-être qu'il était en colère contre même le peuple qui avait laissé faire ça. Il était peut-être aussi submergé par le travail qu'il attendait. Et il va en parler, enfin, aux autres. C'est le dernier passage d'aujourd'hui, versets 16 à 20. Un homme qui agit en craignant Dieu plus que les hommes. Il est temps pour Néhémie donc de dévoiler son plan, dévoiler son projet. Et il va donner aux responsables et au peuple une raison et une motivation. Une raison et une motivation de s'engager dans ces travaux de reconstruction. La raison, c'est ce que Dieu a dit. La première fois que j'ai lu le texte, je me suis demandé, mais pourquoi Néhémie, il est si affecté? Pourquoi ça lui tient autant à cœur? C'est que des pierres. Pourquoi il insiste autant? Pourquoi il fait tout ça? Pourquoi il se donne autant de peine? Mais on l'a dit la semaine dernière, l'état de la muraille reflète l'état du peuple. Et Jean-Jacques l'a très bien dit, le peuple est brisé avec la muraille. Ce n'est pas que la muraille qui a à reconstruire. Et on le voit avec le ministère de Zorobabel, d'Esdras et de Néhémie. C'est un tout, c'est la loi qui va être réenseignée, le temple qui va être reconstruit, le culte qui va reprendre normalement et les murailles qui vont être reconstruite. Néhémie a une conscience aiguë de la place de Jérusalem dans le cœur de Dieu. Et Néhémie se souvient et s'accroche à ce que Dieu a dit, « Je ferai résider mon nom dans cette ville. » Et pour lui, regardez à la fin du chapitre, du verset 17. « Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, nous ne serons plus dans le déshonneur. » Pour lui, la ruine de Jérusalem, c'est un déshonneur pour le peuple, mais aussi pour Dieu. Ce que Dieu a dit pousse Néhémie à l'action. Et après la raison, la motivation, ce que Dieu a fait. C'est ce qu'il dit. Verset 18, « Je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu était sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. » Si le roi a permis la reconstruction de la muraille, c'est grâce à Dieu. C'est un miracle, leur dit Néhémie. C'est le même roi, vous vous souvenez, qui avait dit arrêtez les travaux, c'est ce même roi qui dit ok, reprenez les travaux. Et je pense que Néhémie, de leur dire, mais attendez, non seulement il m'a dit reprenez les travaux, mais il m'a donné du bois, il m'a donné ça, il m'a donné ça. Il montre la main de Dieu dans ce qu'il se passe. Il est en train de dire, Dieu a agi, maintenant agissons. Et encore une fois, Néhémie nous montre comment la souveraineté de Dieu nous pousse à l'action. Néhémie rencontre l'opposition. On l'avait évoqué tout à l'heure, dès le verset 10, il y avait une petite mention de deux hommes. Deux hommes qui apparemment n'étaient pas très contents que Néhémie arrive et qu'il engage un projet pour le bien des Israélites. Et là, on a une description de trois hommes. Sanballat, le gouverneur de Samarie. Tobia, le gouverneur d'Ammon. Et il est probablement membre d'une famille juive influente. Et Geshem, leader puissant d'un groupe de communautés arabes. Vous avez déjà la carte. Excellent. Quand on regarde sur la carte, on se rend compte que géographiquement, et ça reflète quelque chose aussi de spirituel, Néhémie est presque encerclé par ses ennemis. Et on va voir la manière dont, dans le livre, ses ennemis vont essayer de manière répétée d'intimider Néhémie. Et ici, au verset 19, c'est par les moqueries, par le mépris. Mais Néhémie, il avait passé des mois dans la prière. Néhémie, il savait que c'est Dieu qui avait mis dans son cœur ce projet. Il le dit au verset 12. « Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. » Et pourtant, il rencontre l'opposition. Dès qu'on se lève pour Dieu, on rencontre l'opposition. Néhémie avait prié pendant des mois, mais son récit nous montre qu'on peut être très pieux. On peut prier beaucoup et pour autant, on n'est pas à l'abri des difficultés. Et parfois, on a l'impression d'avoir une super relation avec Dieu. On a l'impression d'être plutôt pas mal en ce moment. On fait les choses assez bien. On fait tout ce qu'il faut. Et on rencontre des difficultés. Et un de nos premiers réflexes, c'est de demander « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour qu'il m'arrive ça ?« Seigneur, j'ai fait ça. Tu m'avais dit de régler ça, j'ai réglé ça. Tu m'avais fait comprendre que je devais passer plus de temps avec toi, je passe plus de temps avec toi. Tu m'as fait comprendre que je dois faire ces efforts dans mon couple et je fais plus d'efforts dans mon couple. Ce n'est pas parce qu'on est pieux qu'on est à l'abri des difficultés. De manière générale et de manière particulière quand il s'agit d'œuvrer pour Dieu. Celui qui s'engage pour Dieu sera persécuté. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Christ nous a dit, si vous me suivez, attendez-vous à être rejeté comme moi j'ai été rejeté, méprisé comme moi j'ai été méprisé, abandonné comme moi j'ai été abandonné, rejeté comme moi j'ai été rejeté. Prendre sa croix, c'est suivre le chemin de Christ. C'est renoncer à sa vie pour la gagner en Christ. Mais ce passage-là, c'est un passage par la souffrance, par la mort, mais aussi par la victoire. Dieu ne nous a pas promis l'absence de difficultés, mais il nous promet sa présence au sein des difficultés. Et Jésus nous a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Et comme Néhémie, on peut affronter le mépris. Comme Néhémie, on peut affronter les moqueries. Comment ? Quand on échange comme Néhémie, la crainte des hommes contre la crainte de Dieu. À la fin du premier chapitre, Néhémie se définit comme un serviteur qui veut craindre le nom de Dieu. Néhémie veut craindre Dieu, se placer sous sa protection. Et Néhémie sait que la peur des hommes commence quand les hommes sont plus grands que Dieu. Et face à ces mépris, face à ces moqueries, Néhémie il aurait pu mettre en avant les lettres de recommandation du roi. Il aurait pu leur dire, vous n'avez pas vu comment je suis arrivé en escorte? Regardez le nombre de lettres que j'ai de la part du roi. Vous n'avez pas vu les chars pleins d'arbres que j'ai pour reconstruire tout? Tout ça, c'est le roi qui me l'a donné. Qu'est-ce que vous racontez? Mais Néhémie ne prend pas appui sur l'autorité du roi, mais sur sa confiance en Dieu. Sa crainte de Dieu est plus grande que sa crainte des hommes. Quelques mots de conclusion. On a vu comment la souveraineté de Dieu parcourt tout le chapitre. On l'a vu comment à plusieurs reprises, Néhémie dit que c'est la main de l'Éternel. C'est la main de l'Éternel qui a dirigé tous ces événements. Néhémie nous rappelle que dans sa providence, Dieu agit dans nos vies et dans la vie des autres. C'est lui qui incline le cœur du roi, c'est lui qui a mis ce projet à cœur à Néhémie. Et tout ce que nous vivons porte l'empreinte de sa main. Et ce chapitre nous enseigne trois choses sur la souveraineté de Dieu et notre responsabilité. La première, c'est que la souveraineté de Dieu n'empêche pas l'action. Et c'est ce qu'on a vu, au contraire. C'est parce que Néhémie est motivé par la souveraineté de Dieu qu'il agit et qui motive le peuple à agir. Deuxième chose, la souveraineté de Dieu n'empêche pas la réflexion. Il a planifié, établi une stratégie, réfléchi aux besoins. Troisième chose, la souveraineté n'empêche pas l'opposition. Quand on s'engage pour Dieu, on sera moqué et parfois raillé et parfois battu et peut-être mis à mort. Mais Dieu veille sur nous. Dieu nous accompagne. Et Dieu nous montre aussi que ce pourquoi nous vivons est plus grand que cette vie-là. Il nous aide à lever les yeux. Lever les yeux à lui et lever les yeux à la gloire qui nous attend auprès de lui. Parce que Dieu est souverain, nous pouvons agir. Je vais prier. Dieu du ciel, notre Dieu, merci parce que ce matin, tu nous rappelles que c'est toi qui diriges toutes choses. Et que tout ce qui nous arrive, c'est ce que tu as décidé. Et merci aussi de nous motiver par cela à agir pour toi. En mettant en œuvre notre réflexion, l'intelligence que tu nous as donnée. En étant prêt aussi à se remettre en question et à réformer nos propres cœurs. Et en n'ayant pas peur de l'opposition. Aide-nous, Seigneur, à ce que notre crainte de toi soit plus grande que la crainte des hommes. Et à nous rappeler que si tu es avec nous, qui sera contre nous? Rien ni personne ne pourra nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Que cette vision de ta grandeur, de ta gloire et de ta puissance nous aide à t'obéir dans l'amour et dans la joie. Pour ta gloire. Amen.